Bonjour et bienvenue à tous dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. Pédagogie, équipement, formation, vision du futur, la stratégie numérique de l'école est-elle pertinente? Quatre invités pour en parler. Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé au numérique. Alexandre Acou, professeur des écoles. Emmanuel Davidenkoff, auteur d'un livre intitulé « Le tsunami numérique », entre autres. Et Mathieu Gendron, directeur du numérique au ministère de l'Éducation nationale. Au sommaire également les actualités de Rue des Écoles avec Marie-Caroline Missire, la dictée, un mème du débat éducatif.
Oui, la dictée, les dictées, mais aussi les facs qui craquent et les fuites au bac.
Et c'est encore une information confidentielle dont vous avez le secret, une rubrique en partenariat avec le site EducPro. On vous retrouve dans un instant. Et puis, autre rubrique, un peu plus tard dans l'émission, le focus sur l'enseignement supérieur avec Morgane Taquet de l'étudiant. Cette semaine, vous nous parlez de LinkedIn. Quel rapport avec l'enseignement et quel rapport entre ce réseau professionnel et l'enseignement?
Le rapport, Louis, c'est que le réseau social est en train de devenir un acteur à part entière de l'orientation des étudiants.
Mais comment? Vous nous le direz vers 17h45. Rue des Écoles, attachée de production, Laurence Genepin, Alexandra Malka à la réalisation, à la technique Delphine Baudet. Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr pendant 1000 jours. Et surtout, vous pouvez vous abonner au podcast. Et puis, pour réagir et interagir sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas notre hashtag RDE.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
La deuxième journée du numérique à l'école se tiendra mercredi prochain. Le numérique, c'est un sujet qui s'est parfaitement coulé dans les débats éducatifs classiques. On pourrait dire que le numérique est plus pédagogue que républicain. Mais au-delà de ça, l'observateur avisé de l'école s'interroge. À quoi sert donc le numérique, les technologies du numérique, à part à faire de beaux discours et des annonces prédisant un futur pédagogique enchanté à coup d'investissement dans les équipements. Surtout que les études disponibles sur la question l'affirment, les outils numériques ne font pas spécialement progresser les élèves. Quels sont donc les enjeux attachés à cette question en 2015? Quel est le plan, je reprends le terme officiel? Bref, la stratégie numérique que l'éducation nationale s'apprête à mettre en place est-elle pertinente? On en parle avec quatre invités. Axel Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État chargé au numérique. Vous avez lancé un grand projet, celui de grandes écoles, nouvelles grandes écoles en France. On en avait peut-être besoin du numérique. Quels sont vos objectifs?
Que le numérique, lorsqu'il permet d'apprendre un métier, soit un vecteur d'intégration sociale et professionnelle pour des catégories de personnes, notamment des jeunes décrocheurs qui sont sans qualification et sans emploi.
Le numérique pour tous, ben on va analyser cette stratégie. Je crois qu'Emmanuel Davidenkoff a des choses à en dire. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction de l'étudiant, donc auteur d'un livre remarqué sur la question du numérique, Le tsunami numérique. J'ai relevé une phrase dans ce livre que j'ai lu pour la deuxième fois pour préparer cette émission. Il faut faire la pédagogie du numérique avant de faire de la pédagogie numérique. On en est encore là?
Oui, et pour pas mal de temps, parce qu'on en est aussi à faire la pédagogie de la pédagogie dans ce pays. À partir du moment où la formation des enseignants, la formation initiale est quand même assez légère, si on la compare à ce qui se passe dans d'autres pays, où la formation continue est à peu près sinistrée, c'est pas moi qui le dis, c'était un récent rapport de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale. Oui, la pédagogie de la pédagogie est à faire. Ensuite, que vous vous appuyiez pour enseigner sur des manuels papier, sur des tablettes, sur des sorties scolaires, des voyages, sur absolument ce que vous voulez, j'allais dire, ce n'est qu'une deuxième partie du débat.
Alexandre Acou, je le disais, vous êtes professeur des écoles, vous êtes aussi formateur au Clémis. Bien sûr, la question du numérique est une question qui s'attache à celle des médias, spécialité du Clémis. Co-auteur avec Catherine Acou-Boisis du guide Internet à l'école, lancez-vous. Je crois qu'on a compris que vous étiez plutôt pro-numérique. Dans votre classe, tout simplement, à quoi vous servent les outils numériques?
Dans ma classe, ils servent à lire, à écrire et à mettre en avant du travail scolaire qui a été à chaque fois préparé sur papier, sur des cahiers, sur le tableau. ou parfois par des lectures oralisées qu'on va enregistrer. Les outils numériques dans ma classe vont uniquement servir en fin de travail, exactement comme tous les collègues des classes à côté des miennes, qui travaillent de manière plus traditionnelle. Mes outils vont juste servir en fin de travail, à mettre en avant des choses.
Est-ce que vous faites une tweet classe? Vous partagez vos productions?
Alors voilà l'exemple
sur les réseaux
des tweet classes. Donc on a un compte Twitter de classe, c'est-à-dire qu'on va servir d'un réseau social qui marche très bien, qui est assez joli, qui est très utilisé, où il y a déjà plus d'une centaine de classes qui l'utilisent, pour raconter la vie de la classe en petits messages. Et ça permet de pouvoir y insérer très simplement des photos, des vidéos, des liens. Et encore une fois, c'est très important de le faire en plus d'un travail d'histoire ou de français, même à l'intérieur d'un travail d'histoire ou de français, et pas sur une heure d'informatique dans la semaine. Il n'y a aucune heure d'informatique dans mon emploi du temps.
Alors, on voit aussi que vous êtes assez prudent, hein. Vous tenez à rassurer les auditeurs, vous faites bien du français. Mathieu Gendron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau directeur du numérique pour l'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Une enquête de l'OCDE, c'est l'enquête Thalys, hein, pas PISA, montrait que l'équipement des écoles françaises est encore assez modeste, en dessous de la moyenne européenne. Quelles sont vos ambitions en matière d'équipement?
On a un plan d'équipement, mais qui s'intègre dans une stratégie générale qui porte aussi toute cette transformation pédagogique, le développement de ressources numériques, le développement des autres enseignements, tout ce qui va être enseignement à vivre dans un monde numérique, l'apprentissage de la culture numérique, et puis tout ça basé sur des projets locaux travaillés avec les collectivités locales notamment.
On va passer aux infos, il n'y a pas que le numérique dans la vie, il y a aussi la dictée. Et nous décryptons les actualités de l'école avec Marie-Caroline Missire. On reparle de la dictée et de la ministre. Vous teniez à y revenir, Marie-Caroline.
Oui, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a présenté vendredi ses programmes revus et corrigés après les polémiques du printemps sur leur caractère illisible, jargonnant, menaçant selon certains les sacro-saints savoirs fondamentaux. Elle était à calmer, voire converti les esprits, à commencer par celui de la ministre qui nous a tout de go annoncé le retour de la dictée quotidienne à l'école. Et comme nous avons un peu mauvais esprit à rue des écoles, mais aussi un peu de mémoire, nous ne résistons pas à l'envie de vous faire écouter ce que déclarait cet autre ministre, c'était en février 2008, moins d'un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, Xavier Darcos, puisque c'est lui, lançait sa réforme des programmes. Écoutez-le au micro de nos confrères de RTL.
Ce que nous souhaitons, c'est revenir aux outils par lesquels on apprend. Ce n'est pas la peine de mettre des disciplines diverses si vous ne maîtrisez pas la langue, écrite et orale. Vous ne maîtriserez pas non plus les autres disciplines. La dispersion a nuit aux élèves les plus faibles. Plus vous compliquez le système, moins ils le maîtrisent.
Comme on a vraiment mauvais esprit à rue des écoles, nous avons, avec la malicieuse Alexandra Malka, mixé les annonces de Najat Vallaud-Belkacem en 2015 avec la réaction de Ségolène Royal en 2008 qui dénonçait la réforme d'Arcos. Écoutez.
On va vérifier qu'ils étudient, qu'ils répètent, qu'ils mémorisent pour maîtriser chacun de ces apprentissages. Et pour bien maîtriser, ça passe par de l'entraînement quotidien, donc à l'école primaire, une dictée quotidienne, des exercices de calcul mentaux quotidiens, de la lecture quotidienne, parce que l'essentiel, c'est la maîtrise du langage.
On a le sentiment que c'est déjà de l'entendu, ça c'est vraiment un retour aux vieilles recettes. Qu'il faille améliorer la réussite des élèves, c'est évident, il y a trop d'élèves qui sortent du système scolaire, de l'école primaire, sans savoir correctement lire, écrire, compter. Et moi, je crois que plutôt que de rêver de l'école du bon vieux temps, il faut regarder aujourd'hui les techniques pédagogiques nouvelles. Par exemple, apprendre aux élèves grâce à l'informatique. On fait parfois des miracles dans certaines classes où les élèves sont en grande difficulté. Apprendre aux élèves à parler, à communiquer grâce au théâtre, par exemple. Donc, je crois, moi, plutôt à une école qui innove. Et au bout du compte, vous savez, il y a une recette qui réussit à l'école, c'est que quand les élèves sont heureux le matin, qu'ils sont encouragés et que les parents comprennent aussi le sens de l'école, alors ça marche.
Marie-Caroline, vous nous rappelez qui était la porte-parole de Ségolène Royal pendant la campagne 2007?
Une certaine Najat Vallaud-Belkacem. Alors ce petit montage souligne bien les effets de manche de ce type d'annonce en fait. Le problème n'est pas tant la dictée ou pas la dictée, mais celle du signal envoyés à l'opinion. Il y a des mots comme ça, la récitation, la dictée, le par cœur, la composition, le calcul mental qui feront bon l'école à papa et qui ont le pouvoir de rassurer une opinion facilement très conservatrice sur les questions scolaires. C'est bien ce qu'a voulu faire la ministre, mais c'est un virage de communication simplement. D'abord, la dictée n'est pas clairement citée dans les nouveaux programmes. Ensuite, les enseignants en pratiquent déjà des dictées. Et enfin, cette façon pour une ministre de dicter une pratique pédagogique est totalement aux antipodes du réacteur de la réforme du collège, par exemple, qui prône, je le rappelle, l'interdisciplinarité et l'autonomie. Avouez qu'il y a de quoi être un peu perplexe. On passe au supérieur, c'est la rentrée et les facs craquent. Les universités sont vraiment confrontées à un afflux d'étudiants extrêmement massif cette année. 65 000 étudiants en plus. Conséquence, tous les étudiants ne trouvent pas de place dans la filière de leur choix. L'UNEF au total en a compté 4 000 de ces mal inscrits. Une orientation par défaut qui risque vraiment de peser sur les premiers pas de ces jeunes dans l'enseignement supérieur. Quelles sont les solutions envisagées par le ministre aujourd'hui ? Alors, la solution qu'a avancée Thierry Mondon, c'est celle de développer de petites universités dans des villes moyennes. Mais ces dernières années, on a plutôt eu tendance à les regrouper, voire à les fermer. Il y a une autre solution, mais qui n'est pas privilégiée par le gouvernement aujourd'hui, c'est de restreindre l'entrée à l'université aux bacs généraux. C'est ce que vient de proposer le rapport sur la stratégie nationale pour l'enseignement supérieur, STRANES, qui vient d'être remis à François Hollande.
Des sujets très difficiles qui mettraient beaucoup d'étudiants dans la rue. Alors on revient au bac, ce n'est pas la saison, mais vous avez trouvé un bilan non publié, vous avez le chic pour trouver des bilans non publiés, des incidents du bac de la saison 2015.
Le ministère a fait ses comptes et cette année encore, il a été difficile d'empêcher toute fuite ou toute fraude. Ce qui est amusant, ce que montre bien ce bilan, c'est que les principaux motifs d'annulation d'épreuves relèvent du système lui-même et des personnels eux-mêmes. C'est même le ministère qui l'écrit. L'organisation des épreuves a encore connu cette année des difficultés, signale-t-on. Les incidents recensés posent toujours la question du professionnalisme de certains chefs de centre ou d'adjoints. Et puis enfin, pour les fuites, le ministère signale quand même deux incidents, ce qui est très peu par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années. La divulgation par un enseignant qui faisait de la surveillance d'un sujet. Et puis la divulgation d'un sujet par une équipe de journalistes, tiens, au cours d'un reportage dans un établissement, dans les 25 premières minutes de l'épreuve. C'était les sujets de philosophie, en l'occurrence via Twitter, en violation des consignes du ministère.
C'est la fin de cette page d'actualité, mais vous restez avec nous, Marie-Caroline. Et on repasse au numérique à l'école, et pas pour parler des fraudes au bac. Je voulais revenir sur cette étude publiée par l'OCDE, une étude qui montre que le numérique ne renforce pas particulièrement les apprentissages des élèves, que finalement, au regard des coûts engagés, une réaction, Emmanuel Davidenkoff, à cette étude.
Moi, ce que j'en ai surtout retenu, c'est qu'elle dit que le numérique permet d'améliorer l'enseignement quand l'enseignement est déjà de très bonne qualité et qu'effectivement, il ne compense pas un enseignement qui serait de mauvaise qualité. S'il n'y a pas d'appropriation, s'il n'y a pas de formation aux outils numériques, à l'usage qu'on peut faire du numérique, il n'y a pas de raison que les choses se passent de manière magique et qui permettent d'améliorer les choses. Vous savez, à chaque fois qu'une technologie apparaît, vous avez quelqu'un qui se lève et qui dit « ça va révolutionner l'école ». Il y a une image que j'aime beaucoup, diffusée par un chercheur de l'Institut français de l'éducation à l'ENS de Lyon. C'est une image qui date de la fin des années 20 aux États-Unis. On vient d'inventer les avions. Et le type se dit « c'est extraordinaire, l'avion, ça va permettre d'enseigner la géographie de manière formidablement vivante. Donc on va faire monter les élèves dans des avions, on va survoler des territoires, et puis tout ça va être extrêmement engageant, ils se souviendront de tout. » Et une photo qui témoigne de cette expérience, qui est très drôle, elle est prise du fond de la carlingue, et on voit les têtes blondes des élèves devant des tables en bois, on a même mis des tables en bois. Il y a la maîtresse au bout, avec une robe très petite maison dans la prairie, elle a une baguette, il y a un globe, elle fait classe. Bon, il y a quand même fort à parier que ce jour-là, on a probablement moins bien appris en l'air avec le bruit que ça faisait et avec toute la complication que ça devait engendrer que si on avait fait une heure de cours, entre guillemets, traditionnelle à terre. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que vous mettiez un manuel scolaire plutôt qu'un autre dans une classe que ça avait un effet sur les apprentissages. Bon, la question, c'est la façon dont les enseignants tissent un rapport au savoir et tissent un rapport aux apprentissages avec les élèves, les engagent. Et là, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait une recette magistrale. En revanche, il faut diffuser l'information, diffuser les outils, diffuser les possibilités de ces outils. C'est fondamental. Je veux dire, être conte, c'est ne pas regarder le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Enfin, je veux dire, c'est comme ne pas regarder le 16e siècle au moment où Gutenberg invente l'imprimerie. Ce qui est compliqué, c'est qu'une fois qu'on a dit numérique, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a un champ du débat autour du numérique qui est de quelle façon le numérique va affecter la vie professionnelle de la quasi-totalité des gens qui travaillent dans ce pays, puisqu'il affecte toutes les activités. Un agriculteur aujourd'hui se sert du numérique. Demandez aux chauffeurs de taxi ce qu'ils pensent du numérique.
Aussi,
pensent
et,
du numérique.
Et vous aussi, Axel, vous avez cette dimension des métiers. On n'a pas eu besoin de formation spécifique.
Vous avez cette dimension, je dis simplement, vous avez la dimension des apprentissages, c'est-à-dire du numérique comme outil, et vous avez encore une autre dimension qui est quel monde dessine le numérique et notamment l'intelligence artificielle. Et là, vous tombez sur des enjeux qui ne sont pas des enjeux techniques, qui sont des enjeux éthiques, des enjeux philosophiques, des enjeux juridiques. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a de tsunami, c'est que ça remue absolument tout.
Axel Lemaire, est-ce que vous avez eu un travail de pédagogie à faire au sein du gouvernement pour, par exemple, convaincre le président de l'intérêt de créer des grandes écoles du numérique? Est-ce que aujourd'hui aussi, sur la pertinence de ce projet, le numérique doit être un instrument pour raccrocher certains élèves, voilà, qui ont quitté l'école, qui ne sont pas diplômés? Ou est-ce que finalement, on a encore du mal à convaincre les élites, les grandes écoles, Polytechnique, l'ENA, les plus hauts fonctionnaires de notre pays?
Je pense que les mentalités ont beaucoup évolué, et ce, assez rapidement. Et je pense qu'il faut se réjouir du fait que le numérique fasse débat, fasse débat en des termes autour des pédagogies innovantes, autour de son apport. Et par rapport à l'étude de l'OCDE que vous citiez, je trouve qu'il faut lever tout de suite une ambiguïté. Le numérique reste un outil. C'est un outil au service d'une politique publique et d'une vision. Et j'en donne deux exemples. La grande école du numérique, en l'occurrence, c'est pas directement le système de l'éducation nationale, parce que cette grande école, elle a une finalité très précise qui est de mettre dans l'emploi des jeunes qui justement sont souvent sortis du système alors même qu'ils ont un talent tout particulier dans le numérique qui n'est pas encore, disons, formellement ou officiellement reconnu.
Le modèle, c'est donc l'école 42.
Par exemple, si ce n'est que l'école 42, finalement, elle est quasiment plus élitiste que Polytechnique dans son niveau de sélection. C'est quand même une formation qui dure 4 ans, avec en tout cas des résultats à la sortie qui sont sans doute très probants en termes d'employabilité, puisqu'avant même la sortie de la première promotion, les employeurs s'arrachent déjà les élèves. Mais c'est quand même un modèle à part qui a le mérite de poser la question des nouvelles pédagogies qui utilisent les outils numériques. En revanche, la question du numérique à l'école, qui est celle qui surtout nous occupe aujourd'hui et qui a fait l'objet des annonces du président de la République. Moi, je trouve que la manière d'aborder le sujet est, chez les politiques, au sein du gouvernement, nouvelle. Rafraîchissante.
On n'est plus sur les annonces d'équipement, parce qu'il y a encore un an, François Hollande faisait des annonces où il se réjouissait d'investissements assez massifs pour des équipements. Donc, en tant que spécialiste, on ne comprenait pas très bien ce qu'ils allaient faire dans les classes, puisqu'il n'y avait pas de communication sur les pédagogies qui allaient les accompagner et la formation des enseignants. C'est terminé, on est passé à la phase 2 du plan.
Complètement, je pense que le trio potentiellement gagnant, et bien sûr que ce n'est pas une solution magique, mais le trio potentiellement gagnant, c'est bien sûr les équipements, parce que sans les infrastructures et les outils, on ne peut rien faire. Ça, c'est le béaba. D'ailleurs, je m'attache à connecter les écoles, c'est-à-dire à apporter les technologies minimales type satellite pour que au moins un directeur d'établissement puisse envoyer un email à son recteur, vous voyez, par exemple. Donc, il y a les équipements, il y a les tablettes, il y a les tableaux interactifs dans certaines zones rurales très reculées. Malheureusement, on en est encore là. Ça reste incident, je dirais, par rapport au niveau de connexion des écoles. Mais c'est pas uniquement l'équipement, c'est aussi et peut-être surtout la formation des enseignants. Nous insistons particulièrement sur ce point parce que le numérique, c'est pas le numérisque et qu'il faut pas sous-estimer le niveau d'appréhension d'enseignants, quelle que soit d'ailleurs leur génération, face à l'utilisation de ces technologies en classe. Et puis le troisième volet, c'est un peu le numérique comme prétexte à faire de la pédagogie autrement, parce que souvent on se rend compte que les outils permettent de mettre l'élève au centre, de l'autonomiser pleinement et de suivre les élèves en fonction de leur rythme d'apprentissage, qu'ils soient très en avance ou qu'ils aient du mal à suivre le rythme, disons, moyen de la classe. C'est particulièrement vrai pour certaines catégories d'élèves, les élèves en situation de handicap, des élèves autistes, par exemple. C'est vrai que j'ai beaucoup observé les écoles en Europe du Nord parce que j'ai été élue en Europe du Nord. J'ai regardé ce qui se passait en Suède, en Finlande, au Danemark. Et puis j'ai longtemps vécu en Angleterre.
Et là encore,
et on voit
modèle.
Qu'il y a des résultats. Enfin, on voit qu'il y a des résultats lorsque l'objectif, c'est l'égalité. Et c'est l'objectif de ce gouvernement, c'est de se donner tous les moyens pour qu'aujourd'hui l'école soit véritablement l'école de la République, c'est-à-dire que elle ne soit pas un facteur de reproduction, voire d'accroissement des inégalités sociales, mais qu'au contraire, elle les lisse et elle donne sa chance à tous. Et le numérique, dans ce contexte, est un outil au service d'une politique publique.
Allons voir ce qui se passe dans les classes. Alexandre Acou, parce que vous nous avez raconté ce que vous faisiez, vous, avec vos élèves. Mais ce que vous dites aussi, c'est que beaucoup d'enseignants sont assez frileux, ne savent pas trop quoi faire du matériel qui peut même être mis à leur disposition. Et c'est vrai qu'on voit aussi des ordinateurs qui dorment un petit peu dans les salles de classe. C'est pour ça que vous avez écrit un guide pour les aider à se lancer. Qu'est-ce qui freine les enseignants? Quelles sont leurs craintes?
Souvent, c'est le matériel, l'équipement qui vient en première raison. Après, il faut comprendre que... Il y a différentes étapes pour être connecté, hein. Donc faut un écran, faut une connexion, faut un endroit, et c'est un peu compliqué pour les collègues d'avoir tout qui est réuni. On va avoir les ordinateurs mais pas de connexion, on va avoir une connexion mais pas d'ordinateur, on va avoir une salle informatique mais pas la clé, on va avoir
ou alors une salle trop petite qui peut contenir que 16 élèves. Parce que ça, c'est le grand
voilà, c'est ça. Donc c'est un ordinateur pour deux, c'est comme ça. Donc faut se débrouiller avec un ordinateur pour deux, donc c'est pas toujours pratique. Et puis alors après, il y a des différences locales assez terribles. Moi, j'ai du mal à voir mes collègues. Alors, on parlait des espaces ruraux, mais l'inverse est aussi possible. Moi, je veux des collègues dans des espaces ruraux qui ont des classes magnifiques avec du Wi-Fi.
Oui, tout à fait.
À Paris, il est interdit dans les écoles. Hein, donc, on a les ondes Wi-Fi des voisins qui passent, mais pas celles de l'école. Alors, on se débrouille. Donc, évidemment, déjà, là, ça filtre. C'est-à-dire ceux qui ont l'énergie, le temps, l'envie, comme vous. Beaucoup de collègues, comme moi, j'ai pu avoir. On va continuer, on va trouver, on va se débrouiller. Et c'est sûr que si on se débrouille, si on a passé un peu de temps, si on utilise son smartphone, par exemple, pour écrire des messages sur le blog de la classe, si on va acheter un écran chez Ikea, comme j'ai fait à ma rentrée, on va pouvoir utiliser le numérique. Évidemment, ceux qui n'ont pas cette énergie-là, pas le temps pour... parce que souvent, en fait, ils sont intéressés par je sais pas, une sortie, un autre projet qui n'est pas lié au numérique, du coup, ne vont pas forcément l'utiliser. Après, la deuxième raison qui vient souvent, c'est qu'ils n'ont pas les compétences. Ça, on pourra en parler longuement parce que, alors d'un côté, oui, il y a la formation, et il faut de la formation, c'est évident. Alors, on parle de formation continue, mais formation initiale aussi. Il faut pas attendre que les gens quittent les ESPE pour leur dire, en fait, on aurait dû vous former au numérique. Faut le faire tout de suite. Et en même temps, j'ai envie de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on demande à nos élèves? On est à l'école élémentaire. Est-ce que la grande majorité des collègues de primaire ne savent pas déjà faire ce qu'ils doivent apprendre à leurs élèves, c'est-à-dire envoyer un email, aller vérifier qu'on est sur un site sérieux? Il faut savoir que beaucoup d'enseignants préparent leurs cours en utilisant Internet, utilisant leur messagerie, évidemment, utilisent les réseaux sociaux. Je ne vous parle pas des enseignants qui sont cités dans le livre, mais je vous parle de la majorité de mes collègues. Donc finalement, qu'est-ce qu'on demande à nos élèves, c'est ces compétences-là.
Ben, on baigne tous dans un univers numérique comme M. Jourdain dans la prose, mais pourquoi donc ces aspects numériques ne sont pas inclus dans les formations? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des grandes écoles, c'est-à-dire du numérique partout, tout le temps, comme il a pénétré nos vies. Et on se retrouve à s'interroger sur des plans de formation assez compliqué au sein de l'éducation nationale et assez coûteux quand on sait qu'on doit aussi se former à la réforme du collège, que ça pose plein de problèmes, que par ailleurs l'apprentissage de la lecture ou des mathématiques aussi nécessite des formations parfois supplémentaires pour les professeurs. Mathieu Gendron, vous en êtes où dans votre plan de formation? Est-ce que ça devrait pas être tout le temps le numérique comme quelque chose d'assez naturel, pour résumer ma question?
Oui, alors bon, le numérique, ben, c'est vrai que la prise de conscience de cet enjeu de formation des enseignants est croissant, mais effectivement, on part pas forcément d'une situation simple. Le niveau de formation de point de départ est quand même relativement limité. Alors, on investit particulièrement cette année dans une formation, on va dire classique, évidemment, parce qu'il en faut aussi un petit peu de la formation classique, 3 jours de formation pour notamment tous les enseignants du second degré, mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour permettre à l'enseignant d'intégrer ces usages-là dans la classe. Ça suffit pas pour l'appropriation. Et donc, au-delà de cette formation qu'on peut initier, eh bien, on a besoin de s'appuyer sur des pionniers comme mon voisin de micro pour trouver aussi définir un certain nombre de lieux, d'espaces, de temps pour prendre en main, se former, être accompagné lors de ses premières activités professionnelles numériques. Donc on est en train de regarder comment on met en place des systèmes de laboratoire, d'incubateurs de ces nouveaux usages. On essaye de consolider aussi le réseau des référents numériques dans les académies. L'idée, c'est vraiment de alors on parlait de numérique outil, mais au-delà du numérique outil, c'est le numérique comme culture aussi, culture d'apprentissage, culture terreau, avec la possibilité de mettre en réseau l'ensemble des acteurs qui contribuent au niveau de l'académie, de Canopée, des collectivités locales, etc., pour faire connaître, faire comprendre, et faire réfléchir les enseignants sur tous les ressorts de tout ce qui se passe dans le numérique et mettre en place un accompagnement qui n'est pas effectivement un accompagnement quand on a le temps, une fois par an, dans un cadre uniquement d'un plan national de formation, mais d'avoir effectivement un accompagnement sur le terrain de proximité, une capacité à avoir de l'aide, quoi.
Canopée, ce sont les ressources disponibles en ligne en particulier, mais pas seulement, oui, pour les enseignants, je le précise. Emmanuel Davidenkoff, vous voyez réagir.
C'est le mot culture qui m'a fait réagir, qu'utilisait Mathieu Gendron à l'instant. Moi, je pense qu'il faut comprendre le choc que ça représente. Parce que si on parle de la culture numérique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des notions de coopération rendues beaucoup plus faciles, beaucoup plus massives, et qui font partie intégrante du monde numérique et de la façon de résoudre des problèmes. Moi, je me souviens toujours de cette conférence TED extrêmement drôle de Anand Agarwal, qui est le professeur au MIT, président de edX, qui est une des plus grosses plateformes de cours massifs en ligne. Et il raconte la mise en ligne du premier cours, c'est sur les circuits électroniques. Il a 155 000 inscrits. Première fois qu'on met un cours dans le monde entier, évidemment. Il dit, c'est quand même compliqué. D'habitude, on faisait cours maximum. Oui. On avait 1 000 étudiants, là, 155 000. Alors, j'ai mis toute mon équipe sur le pont pour qu'on puisse répondre, interagir sur les forums pour aider les étudiants. Le cours commence à être diffusé. Au bout de quelques minutes, un premier message arrive sur le forum venant, si mes souvenirs sont bons, du Pakistan, avec un élève qui pose une question. Et là, il dit, je commence à... Il est 2 heures du matin, en plus, parce que ça a commencé à 2 heures du matin. Il commence à rédiger sa réponse. Il a à peine rédigé sa réponse qu'un étudiant égyptien répond à l'étudiant pakistanais. Alors là, il se dit, je vais intégrer la réponse de l'égyptien parce qu'il y a encore une petite erreur dans ce que dit l'égyptien. Il n'a pas le temps d'écrire sa réponse qu'un américain, etc., etc. Et il dit finalement, j'ai levé les mains du clavier, j'ai regardé sur l'écran pendant 2 heures et au bout de 2 heures, ils avaient trouvé, donc j'ai simplement écrit bonne réponse. Bon. Donc vous voyez, ça c'est totalement dans la culture du numérique, la coopération. Essayez d'intégrer ça à l'école, ça veut dire quoi derrière? Évaluation par les pairs, PAIRS, quand vous voyez le tollé que suscite l'hypothèse d'arrêter les notes de 0 à 20, je vous laisse imaginer quand on parlera d'évaluation par les pairs. Vous avez un deuxième axe qui est extrêmement important dans le numérique, c'est évidemment la notion de créativité. Qu'est-ce qu'on cherche dans le monde du numérique? On cherche à être différent de la machine. Or, la machine, en ce moment, elle résout...
Non mais parce que vous parlez de créativité, donc je retiens, en ce moment on fait des dictées et du calcul mental.
Oui,
enfin, l'un peut aller avec l'autre, cela dit.
Je pense qu'il faille opposer les choses. Mais bref, créativité. À partir du moment où on essaye de déclencher la créativité, ça fait vraiment partie du numérique. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'il faut être différent des machines. L'intelligence artificielle résout un nombre de problèmes logiques absolument incalculables et ça va être croissant au fil des ans. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va battre la machine. En revanche, il y a des choses que la machine ne sait pas faire. Prendre des risques, formuler une question autrement. Et puis, il faut la programmer, la machine. Donc, la créativité est au cœur. Quels sont les moments dans le parcours scolaire où on invite l'élève à faire preuve de créativité? Il y en a énormément en maternelle, il y en a encore un petit peu en primaire, et puis après, on commence à se calmer sérieusement. Si il y a les cours de musique, Mais curieusement, c'est pas la discipline ou les arts plastiques, pardon. Mais d'abord, ça disparaît au lycée parce qu'il faut arrêter les choses, passer aux choses sérieuses. Et curieusement, c'est pas forcément la discipline qui gagne au moment du conseil de classe. Vous avez dans le numérique la culture du faire. On essaye, essai, erreur, ce qu'on appelle, les Anglais appellent le learning by doing. Ça existe dans les écoles, mais c'est pareil. Vous allez trouver ça énormément à la maternelle, pas mal aux primaires, la main à la pâte aujourd'hui. Ça a 20 ans la main à la pâte.
Dispositifs expérimentaux dans les classes.
Apprentissage des sciences par l'expérience. Bon, c'est exactement cette même idée-là. Ça concerne de mémoire à peu près 30 à 35 des écoles primaires, pas plus. Donc on voit bien qu'un certain nombre d'enseignants sont prêts à s'engager là-dedans. Pas tous, là encore, ça heurte complètement cette culture. Quand vous disiez culture du numérique, ça heurte une certaine culture scolaire qui est dominante. Elle n'est pas unique, elle n'est pas exclusive, elle est dominante. Et puis enfin, sujet qui est quand même à l'ordre du jour, avec le numérique, on sait, et avec l'intelligence artificielle, qu'une seule discipline n'a pas la réponse à toutes les problématiques. Et que donc un des gros enjeux, c'est comment faire en sorte que l'ingénieur, le philosophe, le marketeur, le sociologue, etc., trouvent des terrains communs, trouvent un vocabulaire commun, réussissent à travailler ensemble. Ça s'appelle l'interdisciplinarité. Et on voit à quel point ça ne va pas de soi non plus, en tout cas dans notre enseignement secondaire, parce qu'un professeur des écoles dans sa classe, la pratique, j'allais dire normalement, d'ailleurs assez spontanée, puisqu'il tient tous les fils. Donc je veux dire, si on arrive sur un problème de grammaire étudié à 9h, au moment du cours d'histoire à 10h, avec un petit peu de chance, il va faire le lien. Voilà. Donc si vous voulez, le choc est absolument total entre cette culture numérique et la culture dominante à l'éducation nationale. Et ça, ça va évidemment être le plus compliqué et le plus long à porter. Et je pense qu'une porte de sortie, j'imagine qu'Axel Lemaire le dira, c'est justement de prendre les choses entre guillemets de manière un peu plus surplombante et peut-être plus politique. Et quand vous disiez on voit que les résultats sont bons lorsque l'objectif c'est l'égalité, resterait enfin à convaincre tout le monde à l'éducation nationale que l'objectif premier c'est l'égalité et pas le tri.
Merci. Mais alors, j'ajoute un élément, c'est que vous parliez de cette culture numérique dans laquelle nous allons baigner et évoluer, mais pour nager de manière fluide, rapide dans cet univers-là, il faut peut-être être solide sur ses acquis. Et je pense que la crainte de ceux qui critiquent le numérique, et on va se tourner vers notre professeur des écoles, et vous l'avez très bien relevé dans votre première réponse, Alexandre Accoux, c'est que les savoirs soient trop fragiles. Si on écrit mal, si on raisonne encore de manière trop approximative en sortant de l'école élémentaire, je crois qu'on est aussi perdu dans l'univers numérique. Et ça, tout le monde le sent intuitivement. Et on dit, étudions d'abord les fondamentaux, comme dirait la ministre, et puis on passera au numérique dans une seconde phase. Pourquoi tout faire en même temps ?
On peut tout faire en même temps parce que je pense à un collègue à qui j'ai piqué l'idée en fait d'utiliser Twitter dans la classe, qui s'appelle Jean-Roch Masson, qui a été beaucoup médiatisé
très
aussi.
Très actif aussi sur les réseaux sociaux.
Voilà, qui lui donc a décidé d'ouvrir un compte Twitter de classe pour des CP. Et donc là, l'enfant, quand il va écrire sa première phrase, elle va être susceptible d'être lue par tous les abonnés du compte. Et donc là, on va donner une visibilité au travail et à l'écrit de l'élève qui peut être très intéressante. Ça, on n'a pas vraiment parlé. Enfin, M. David Yankoff, on a parlé à travers la créativité. On peut aussi parler de valorisation du travail. En fait, on le faisait déjà avant avec des blocs de classe, avec des blocs d'école. Maintenant, certains collègues donc le font via les réseaux sociaux. Donc déjà, il y a cette mise en avant du travail, tout simplement. Où là, le numérique, très simplement, de manière très rapide et très efficace, en fait, on va faire ce qu'on faisait avant avec un journal de classe, tout simplement. Hein. Sauf qu'on n'a pas d'encre sur les doigts.
C'est un peu le statut de l'écrit aujourd'hui que de circuler à travers les réseaux et de se donner à voir par tout le monde.
Oui, et puis pour
l'importance de l'orthographe.
Oui, et puis pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a aussi ça, il y a aussi apprendre ce que c'est que l'écrit à des enfants et d'ailleurs dès le CP, les différents types d'écrits, comment on va se comporter par rapport à tel écrit qu'on est en train de faire. Et moi, par exemple, dans ma classe de CM2, quand mes élèves écrivent un message sur notre compte Twitter, ils écrivent en tant qu'élève, pas en tant qu'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui a envie d'écrire ce matin, maman, vous voulez que je mette mon manteau, il sait qu'il ne peut pas. D'ailleurs, il ne le propose jamais. Ça fait 4 ans, ils n'ont jamais proposé une phrase ayant rapport direct avec la maison, puisqu'ils sont ici, pardon, en tant qu'élève. Et là, on touche à ce dont on n'a pas non plus parlé, l'identité numérique qui est présente dans les programmes scolaires qu'on est censé inculquer à nos élèves. C'est-à-dire comment reconnaître une identité numérique, comment se construire une identité numérique. Alors, c'est très peu, évidemment, avec mes élèves de CM2, mais déjà, ça va être apprendre à s'exprimer correctement en fonction de l'endroit où on est en train d'écrire.
On mesure quand même le décalage entre certains nouveaux attendus scolaires du type construire une identité numérique et l'école telle qu'elle est aujourd'hui. On passe à la question du matériel dans quelques secondes.
Hier encore, mon cœur
Vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture. Nous parlons du numérique à l'école, mais aussi dans le supérieur, avec par exemple des nouvelles grandes écoles du numérique. Alors, le numérique, c'est un nouveau poste de dépenses assez important pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Des dépenses importantes, pas toujours faites à bon escient. Marie-Caroline Missire, vous avez des éléments sur ce sujet, vous avez des chiffres.
Oui, beaucoup de chiffres, puisque depuis quelques mois, le petit monde des EdTech, donc les technologies appliquées à l'éducation, est en ébullition. Le plan numérique pour l'école a été annoncé le 7 mai par François Hollande. Il est doté quand même d'un budget d'1 milliard d'euros sur 3 ans, un tiers financé par les investissements d'avenir et 650 millions en fonds propres. Pour l'éducation nationale, 2 choses à retenir. Des appels d'offres qui ont été lancés en septembre pour des ressources numériques qui sont destinées à accompagner la réforme du collège pour les 5e, les 4e, les 3e dans une série de disciplines. L'idée, c'est de faire une sorte de Wikipédia de l'éducation. C'était le conseiller à l'éducation de François Hollande qui avait utilisé cette expression. Je la reprends. Pour comparaison, la somme allouée aux manuels scolaires tous les ans, dans le cadre des appels d'offres, manuels scolaires papier, c'est 300 millions d'euros, pour avoir une idée. Et puis, un deuxième axe de ce plan pour l'éducation nationale, c'est l'équipement des 300 collèges à la rentrée 2015. Initialement, le ministère avait pensé à un marché unique pour équiper tous ces collèges. Et puis finalement, il a opté pour un appel à projet des collectivités intéressées. Et l'État va compenser ces investissements assez largement. Et sur ce que je viens de détailler, j'avais une question pour vous, Axel Lemaire. En tant que secrétaire d'État au numérique, comment vous vous inscrivez dans ces prises de décision, puisque vous piloter un secrétariat d'État qui est plus large que l'école, mais quelle a été votre intervention sur les questions du plan numérique à l'école? Comment vous intervenez sur ces questions?
Bien, conformément à la culture numérique collaborative. Non, c'est vrai que j'ai sonné l'alerte pour dire attention, pas de grand plan tablette. Hein, on n'est plus dans les années 80.
Et on a quand même un plan équipement.
Ah mais c'est absolument nécessaire. Je veux dire, ça c'est la brique de base. C'est les infrastructures, les tuyaux, les équipements, les terminaux mobiles, les ordinateurs, les tableaux interactifs, quelle que soit la forme qu'ils prennent, on peut pas faire de numérique sans. Donc voilà.
Alors de toute pourquoi façon, pas de grand plan tablette par exemple?
Parce que ça ne suffit pas. Parce que c'est d'ailleurs ce que dit l'étude de l'OCDE, que des outils s'ils sont mal utilisés ou s'ils sont de mauvaise qualité, effectivement ça ne sert à rien. J'ai aussi plaidé pour que l'on fasse confiance aux enseignants et notamment aux enseignants un peu geeks qui souvent sont très expérimentaux, ont une certaine vision de la pédagogie, maîtrisent bien les outils mais peuvent se sentir isolés dans la salle des profs. Et je crois qu'il y a là une source de créativité extraordinaire qu'il faut valoriser au sein de l'éducation nationale. Et puis confiance aux collectivités locales, parce que c'est au plus près des besoins et du terrain qu'il fallait évaluer l'apport de l'État. Et en l'occurrence, on se rend bien compte que les départements ne sont pas forcément tous dans les mêmes positions. Beaucoup ont déjà investi depuis plusieurs années sur ces sujets et d'autres commencent tout juste. Et donc, d'où l'idée d'abonder un investissement fait par les collectivités. 1 euro investi par une collectivité locale permettra un co-investissement de l'État d'1 euro. Donc, on voit bien que la logique, c'est une logique de l'accompagnement. Nous ne dictons pas, ni aux enseignants, ni aux établissements, ni aux collectivités locales, les choix qu'elles doivent opérer pour intégrer le numérique dans les enseignements. Mais nous accompagnons cette transformation qui est globale, qui doit être structurante. J'insiste sur les ressources pédagogique. Ce Wikipédia dont vous parlez, pour moi, c'est une des clés parce que cela permet de créer une plateforme qui agrège des contenus souvent innovants et qui partage les créations faites par les enseignants. Donc oui, des contenus des maisons d'édition, c'est classique. Oui, des contenus fabriqués par des start-up, des PME innovantes qui créent une application mobile pour le calcul et son apprentissage chez les plus jeunes. Et oui, pour aller chercher les contenus créés par les enseignants eux-mêmes.
Elles ont une chance, ces startups, d'être sélectionnées dans ces appels d'offres face à des géants de l'édition, plus traditionnels, plus installés.
Vous me demandiez le rôle que j'ai pu jouer dans l'élaboration de ce plan. J'ai notamment plaidé pour qu'on se tourne plus systématiquement vers ces petites entreprises souvent très innovantes, faisant un constat qui m'attristait, c'était que souvent, il fallait aller vers des pays dont le Royaume-Uni, par exemple, où l'accès aux écoles était facilité. C'est difficile de comparer, puisque là-bas, on a un système extrêmement décentralisé.
Avec une grande autonomie des établissements.
Complètement. Et un système assez inégalitaire en soi, et qui est finalement un marché. On ne veut pas un marché de l'éducation en France. Et pourtant, il faut quand même ouvrir les portes à ces start-up qui foisonnent d'idées et d'innovations.
Mathieu Jean, donc vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il y a eu parfois des investissements qui étaient un petit peu hasardeux et des achats de matériel qui n'ont pas vraiment été utilisés ?
Mais c'est le cas quand à chaque fois qu'effectivement il n'y a pas une équipe derrière qui a été mobilisée en amont et à chaque fois qu'effectivement ça a été plaqué sans une réflexion de la façon dont on s'approprie. Oui, il y a certainement tout un tas d'endroits où il y a des choses qui dorment dans les placards. Voilà, d'autres éléments. On travaille sur un autre volet. Mon voisin le disait très bien. Il faut que ce soit fiable. Il faut que ça marche. L'enjeu aussi de ce déploiement, c'est d'assurer l'enseignant, a un dispositif qui soit simple, qui soit fiable.
Mais vous savez comme moi qu'il n'y a personne pour s'occuper de l'entretien des machines et des réseaux au sein des collèges, par exemple, et qu'on est obligé de confier cette tâche à des enseignants dévoués, dont on espère qu'ils vont être présents et disponibles et compétents dans les établissements. Et ce n'est pas forcément toujours le cas.
Voilà, donc ça fait partie aussi des éléments qu'on regarde dans ces appels à
projets. Ça fait partie du plan.
Mais voilà, on est pleinement conscient. Alors c'est rigolo parce qu'on parle de plan d'investissement. Mais non, c'est pas un plan d'investissement. On investit, mais ça va être essentiellement du fonctionnement de long terme. On parle d'investissement, mais quand on va mettre, si on met des tablettes, il va falloir les renouveler, parce que dans 3 ans, elles seront obsolètes.
Bah oui, mais quel intérêt d'investir dans un matériel dont l'obsolescence est programmée pour l'éducation nationale, qui est quand même
d'investir dans des manuels.
C'est beaucoup moins cher qu'une tablette, Emmanuel Davidenkov.
Je suis pas sûr.
J'aimerais qu'on me le prouve. Sur 3 ans, non, je suis pas du tout certain. Voilà. Et sur 5 ans, je suis sûr que non.
Et c'est, en tout cas, on
est... À part que c'est une rente de situation pour les éditeurs scolaires et qu'accessoirement, ça sauve l'édition générale en France, puisque la plupart des grands groupes ont un département de manuel scolaire qui est la vache à lait du groupe. Et que si on veut avoir une littérature exigeante et des rentrées littéraires avec 700 nouveautés en France,
il faut protéger ce marché.
Mais à part ça, je vois pas trop l'intérêt.
Est-ce qu'il vaut mieux donner cet argent à Apple?
Non, ou peut-être c'est pas le débat. Peut-être aux enseignants directement. Les anciens qui, non, mais pas dans leur poche, mais dans leur fonctionnement de classe. Moi, les enseignants qui utilisent le plus ces outils, c'est ceux qui utilisent les leurs. Moi, j'utilise mes smartphones, mes vieux smartphones qui n'ont ni Wi-Fi ni téléphone dessus pour que mes élèves puissent écrire des textes dessus. C'est du matériel personnel, d'ailleurs obsolète, mais qui fonctionne très bien une fois que je rentre chez moi et qu'ils se connectent en Wi-Fi. Mais j'en suis là, et j'en suis là. Parce qu'un seul ordinateur par classe, pour certaines séances, c'est pas suffisant. Si je pouvais apporter juste un minuscule grain de sable à cette idée de l'équipement, je dirais que la connexion, c'est très important. J'ai lu les 44 pages du rapport PISA. Les deux premiers pays, la Corée et Singapour, faut aller voir leur niveau de débit, de connexion. Et il y a un truc tout bête que PISA dit pas, mais je pense qu'il y a le temps devant l'écran. Quand votre page met un certain temps à se charger, vous passez du temps sur écran et c'est du temps perdu. Quand vous n'attendez pas, c'est pas la même chose. Rappelez-vous comment on faisait il y a 15 ans, c'était moins productif. Je suis beaucoup plus productif aujourd'hui parce que j'ai une connexion qui est rapide. Donc je pense que, mais évidemment c'est compliqué, on peut pas faire une fiche de commande de chaque enseignant, qu'est-ce que tu voudrais comme matériel. Sauf que faut quand même se rendre compte que c'est ce qu'on fait pour les manuels. Les manuels scolaires, c'est comme ça, chaque enseignant choisit son manuel. Donc moi j'arrive dans une nouvelle école, je fais avec Cilia, mais l'année prochaine je peux recommander des manuels. Alors peut-être pas dans toutes les disciplines, mais si je veux des nouveaux manuels de maths, je peux en commander.
À ce sujet, le président de la République a lancé un plan qui s'appelle le plan France très haut débit. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que notre pays est en retard dans le niveau de connectivité, de connexion. La réalité, et je comprends tout à fait l'impatience, hein, les attentes aujourd'hui sont plus élevées que jamais et c'est tout à fait légitime, mais la réalité, c'est que eh bien, de produire de la fibre optique, d'écrire des contrats, de creuser les tranchées, de former les ouvriers, de déployer Internet partout dans les territoires, ça prend quand même un certain temps, mais le niveau d'investissement, il est plus élevé que jamais. 3,5 milliards rien que pour l'État, la même chose pour les collectivités locales. D'ici quelques années, la France sera sans doute l'un des pays d'Europe, voire du monde, les plus connectés. Sur les équipements, il faut laisser le choix aux profs. Les élèves jeunes, ils utilisent des tablettes de manière très intuitive. Les plus grands, c'est quand même mieux d'avoir un ordinateur pour écrire et pour faire des maths et des calculs. Donc, et puis il y a aussi une tendance qui se dessine beaucoup aux États-Unis, bring your own device.
J'allais en parler et je me tourne vers Mathieu. Pourquoi ne pas demander aux élèves qui sont tous équipés? Parce qu'on sait que la fracture numérique, elle n'existe pas, en tout cas sur le matériel. En fait, la fracture numérique, c'est plutôt la manière dont on va utiliser le numérique chez soi, sous contrôle ou pas, et pour faire quoi.
Tout le sujet, c'est de regarder ce qui va se passer là au collège. Pour que ça marche, il faut un environnement fiable, avec du réseau qui fonctionne, un environnement un tout petit peu moins compliqué, technique. Je sais, vous avez probablement tous des enfants dans les collèges, etc. Il y a 12 mots de passe pour accéder à l'UNT, le machin. J'ai des jumeaux, j'ai un mot de passe pour l'un et un mot de passe pour l'autre. Ils sont dans la même classe, ça marche pas. Voilà, il faut simplifier, il faut travailler à la simplicité, à la fiabilité, etc. C'est tout ce qu'on est en train d'essayer de faire.
Et on va voir à quel point le monde change. Vous en parliez aussi dans Le Supérieur et il change déjà. C'est la dernière rubrique de cette émission. Morgane Taquet, vous êtes journaliste à l'étudiant. Vous avez sagement écouté ce débat et vous allez nous parler de LinkedIn, le réseau professionnel est à la conquête du marché de l'enseignement supérieur.
LinkedIn, c'est l'histoire de cette progression fulgurante. En seulement 12 années d'existence, la start-up californienne est devenue le premier réseau professionnel mondial. Alors LinkedIn, c'est cette plateforme sur laquelle vous avez peut-être déjà créé votre profil.
Oui, je vous confirme, j'ai un profil. Je vois que certains d'entre vous autour de cette table en avaient un, mais je vois toujours pas trop à quoi ça me sert, hein, personnellement.
Mais à entrer en relation avec de potentiels employeurs.
Ah, mais oui, on ne sait jamais.
Mais écoutez bien ces chiffres. LinkedIn, c'est plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, 380 millions de membres. Et on s'en souvient en 2011, une fracassante introduction en bourse. Alors cette fois, la nouveauté, c'est que LinkedIn est parti à la conquête du marché de l'éducation, on le disait. Déjà en 2013, le réseau utilisait les données renseignées par les membres pour créer des pages université ou école. Puis un an plus tard, le réseau se structure davantage en ajoutant une rubrique formation à sa page d'accueil. Depuis, elle est allée plus loin en créant une nouvelle interface appelée la page de sélection, qui permet à un étudiant de trouver l'établissement correspondant à la carrière de son choix. Enfin, en avril 2015, la plateforme a racheté pour 1,5 milliard d'euros un site de cours en ligne américain appelé Lynda.
Bon, des cours en ligne, ok, c'est une filiale. Mais que se passe-t-il qui mêle directement LinkedIn au monde de l'éducation, au-delà de cette page de sélection qui est une page de conseil?
Ce qui est nouveau, Louis, c'est que LinkedIn se positionne sur un nouveau credo, celui de l'orientation. Concrètement, le réseau social ne se contente plus d'aider ses membres à dénicher un job, il devient un véritable outil pour repérer l'école ou l'université qui vous y mènera. En bref, que vous souhaitiez devenir expert comptable ou paléontologue, LinkedIn vous dit quelle est l'école pour y parvenir. Et pour ce faire, le réseau dispose d'un énorme atout, l'immense volume de données actualisées qu'elle recueille sur ses membres, et qui lui permettent d'avoir une vision d'ensemble des carrières de ses utilisateurs, de leur parcours de formation, aux entreprises dans lesquelles ils ont évolué sur toute une vie ou presque. C'est une fabuleuse mine d'or que LinkedIn est déjà en train d'exploiter.
Ah oui, c'est un peu l'ONICEP en mode big data. Alors en quoi l'utilisation de ces données va bouleverser le marché, donc ce qui serait un marché de l'éducation, et c'est tout à fait le cas pour le supérieur.
En possession de toutes ces données, LinkedIn n'est pas seulement en mesure d'orienter, mais pourrait même prescrire une formation. Sur le marché anglo-saxon, le réseau propose déjà un classement des établissements croisant les données sur les anciens élèves et les entreprises les plus convoitées. Un tel classement ciblé sur les débouchés professionnels et non plus sur la qualité de la recherche, comme le font habituellement les classements universitaires, pourrait bien séduire davantage les étudiants. Alors c'est vrai, ce classement n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Mais on voit mal comment la France pourrait y échapper.
Ce qui contraindrait aussi les universités à s'adapter, ça ouvre des perspectives assez nouvelles. Pour un étudiant, à quoi ça peut ressembler concrètement ce processus d'orientation ?
Imaginons, vous cherchez à devenir programmeur ou data journaliste au hasard. En vous rendant sur votre profil, vous trouvez dans ce classement l'établissement qui prépare le mieux à cette carrière. Pour vous aider à réussir, LinkedIn vous propose une formation en ligne adaptée à vos besoins. Séduit par vos compétences mises en valeur sur votre profil, un employeur vous repère et vous propose un job. On le voit à toutes les étapes de la chaîne de formation, LinkedIn pourrait être présent.
Mais cette utilisation des big data, hein, ça fait un peu Big Brother. C'est-à-dire LinkedIn va regarder tout ce que font les étudiants inscrits. Il le fait déjà d'ailleurs pour les professionnels.
Scénario prophétique peut-être, mais cela se dessine clairement déjà aujourd'hui aux États-Unis. Et vu l'allure à laquelle le réseau social innove, LinkedIn pourrait bien déstabiliser le modèle économique existant. Reste à savoir si les universités et les écoles auront le temps de s'y adapter.
Axel Lemaire, en tant que secrétaire d'État au numérique, on a très envie d'entendre votre réaction.
Là, on est vraiment au cœur de mes sujets. La data, la donnée, quand je dis que c'est la ressource la plus importante du 21e siècle, on voit bien les enjeux qui sont à l'œuvre. Je prépare un projet de loi numérique qui vise à créer les conditions d'une économie, d'une société de la donnée, et bien pour qu'on reste souverain sur ces données. Et puis, il y a très gros enjeux en ce moment dans les négociations commerciales internationales, notamment le partenariat transatlantique avec les États-Unis. Faut-il introduire des obligations de localisation des données sur certains territoires, notamment les données scolaires, pour qu'on puisse s'assurer que la loi applicable, c'est la loi nationale.
Est-ce que ça pourrait pas inspirer le service public de l'orientation, c'est-à-dire analyser ces datas, en faire quelque chose qui soit utile aux citoyens, pour le coup, et non plus aux consommateurs?
Je vais même aller plus loin. Si ce n'est pas le service public qui le fait, ça sera les géants de l'Internet. Et donc, dans ce texte de loi, j'introduis une notion nouvelle qui est celle de mission de service public de la donnée, pour que dorénavant toutes les administrations, toutes les collectivités se posent cette question de quelle stratégie de production, d'utilisation, d'ouverture et de réutilisation des données qui me concernent.
Y compris l'école, donc. Cette loi, elle s'écrit de manière collaborative aussi.
Exactement, exactement.
Comment ça marche?
Nous allons lancer une concertation en ligne avec le Premier ministre. Pendant 3 semaines, l'ensemble des citoyens, des internautes pourront non seulement modifier la loi, mais aussi déposer de nouveaux articles. Le gouvernement s'engage à répondre, à justifier une intégration ou un refus des propositions qui auront reçu le plus grand nombre de votes.
Un formidable travail à faire en classe aussi, peut-être avec des élèves. Merci à tous. Les références de vos livres, On est en retard, sur le site de France Culture, à la page de Rue des Écoles. Dans quelques secondes, vous retrouvez Gilles Kepel et dans un instant, Olivia Jesper. Bonne soirée sur France Culture.